Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques de l'UFC Que Choisir. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler énergie, électricité plus particulièrement, et on va se demander comment économiser l'électricité.
Oui, parce que pour en 5 ans, augmentation quand même de 60% du prix de l'électricité, et ce n'est pas une fatalité. Chacun peut en effet agir. En suivant tous les conseils qu'on va vous donner, dont on va parler, vous pouvez économiser quasiment jusqu'à 30% de votre facture. Donc c'est pas
négligeable.
C'est pas négligeable.
Surtout en période d'augmentation. Parlons de l'électroménager. Je suis très surpris par les chiffres que vous allez nous annoncer. On a beaucoup d'appareils chez nous.
Énormément. Alors, en moyenne, dans un appartement, il y a 73 appareils électriques et il y en a 118 dans une maison. Alors, pareil, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible.
On a envie de les compter, du coup.
Voilà, du coup, j'ai quand même un peu compté. Ben, si.
On les a,
il n'y a pas de problème. Même ceux qui sont à la cave, tant on ne sait pas forcément, mais on les a.
On les a, c'est ça. Alors, on précise, ces chiffres-là, c'est ce qu'on possède, mais pas ce qui est branché.
Voilà, c'est pas tout branché en même temps quand même.
Hein. Heureusement, sinon, il n'y aurait plus d'énergie pour le reste de la rue.
Voilà.
Alors, parmi les appareils qu'on retrouve chez soi, il y a quoi ?
Ben, il y a d'abord l'électroménager, bien sûr. Hein. L'électroménager, ben, c'est bien l'acheter et c'est bien l'utiliser. Alors, c'est vrai que pour l'achat, maintenant, on a un peu facilité grâce aux indices énergétiques de chaque appareil. C'est bien affiché clairement dans tous les magasins de vente avec des A, A+, A++. Donc, c'est vrai. Alors, bien sûr, c'est plus cher quand c'est A++ que quand c'est A ou B, mais ça vaut le coup parce que bien souvent, ce qu'on coûte
terme,
en plus à l'achat, on va le gagner tout au long de l'utilisation de l'appareil. Alors, dans l'électroménager, il y a quand même, on va commencer par les plus énergivores, il y a le sèche-linge, par exemple. Hein. Alors maintenant, quand même, ça a progressé la technique des sèche-linges, puisqu'on trouve des sèche-linges à condensation avec pompe à chaleur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les anciens sèche-linges qui rejetaient carrément l'air dans la maison ou l'air chaud dans la maison ou à l'extérieur, cet air chaud est récupéré pour être réinjecté dans le sèche-linge, qui va donc automatiquement consommer un peu moins d'énergie. C'est quand même un sèche-linge avec pompe à chaleur, c'est quand même 300 kWh par an de gagné.
Ah oui, c'est
même,
vraiment pas négligeable.
Hein. Oui. Mm. Et puis bien sûr, le sèche-linge, c'est bien, mais on peut aussi faire sécher son linge au maximum à l'air libre.
Mais bien sûr.
Quand ça permet. D'autant plus que quand on a du chauffage dans la maison, quand on fait sécher son linge dans la maison, ça humidifie aussi l'air, et c'est très bon pour la santé.
Et puis ça évite d'acheter un humidificateur d'air qui serait un appareil électronique en plus. Alors après le sèche-linge, il y a le lave-linge aussi qui est très énergivore.
Alors le lave-linge, il faut d'abord commencer par l'adapter à la capacité de sa famille. Pas la peine de prendre un 8-10 kilos quand on est deux, on va faire un maximum 4-5 kilos de linge à chaque fois. Hein. Et éviter aussi de faire tourner un lave-linge à demi-charge. Alors bien sûr, c'est prévu bien souvent dans le tableau de commande, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'attendre un petit peu et puis faire des lessives à pleine charge. Et puis bien sûr, privilégier au maximum les lessives à 30 ou 40 degrés, qui
suffit dans
de nombreux cas, on peut parfois monter à 60 pour certains linges, mais il faut pas aller au-delà. Hein. Et puis aussi, pas la peine non plus de faire du prélavage. Tout ce que je vous dis là, c'est issu aussi de tests qu'on fait que choisir au national sur ce type d'appareil, et ils s'aperçoivent qu'un prélavage n'apporte pas grand-chose par rapport à la qualité de lavage du linge. Hein. En revanche, ce qui est quand même bien et qui marche bien aussi en termes de qualité de lavage, c'est les programmes éco, qui sont maintenant de plus en plus fréquents sur les lave-linges récents.
Alors, on a le lave-linge, on a aussi le lave-vaisselle.
Oui, pareil, c'est quelque chose de... C'est un ustensile très utile qui, c'est la première utilité, il consomme beaucoup moins d'eau qu'un lavage à la main.
Bien sûr.
Un lavage à la main, on n'est pas loin de 50 litres.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Un lavage maintenant avec les nouveaux lave-vaisselle, on est à moins de 10 litres.
Oui, c'est très très conséquent.
Oui. Donc c'est vraiment un appareil qui est quand même rentable en termes d'économie d'eau, mmh. ce qui est quand même d'actualité
bien sûr.
À l'heure actuelle. Hein. Et puis ben, un lave-vaisselle, il faut le lancer que bien plein.
Évidemment.
À part, c'est tout un art hein, de remplir un lave-vaisselle. Mais plus il est plein, mieux c'est. Mm. Et pareil, comme pour la lessive, le programme est performant économique quand il est en économie.
D'accord.
On consomme moins d'eau, on consomme moins d'électricité et ça lave tout aussi bien. Et lave-linge et lave-vaisselle, il faut aussi penser à nettoyer les filtres mm. parce que ça peut être un facteur de mauvaise qualité de la lessive ou de la vaisselle. Hein.
Toujours dans la cuisine, il y a les plaques de cuisson.
Oui, alors, pareil, en regardant, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que ce que je ne savais pas, c'est quand même l'induction qui est la plus économe en électricité.
Ah, oui.
On a tendance à dire, bah oui, ça chauffe très vite, ouais. très fort, l'induction, mais non, au global, par rapport à une plaque normale, électrique normale, c'est moins 20% d'électricité
ah,
quand
oui.
même.
Et c'est important.
Donc, si vous changez, vous êtes amené à changer votre plaque, n'hésitez
plutôt
pas à prendre de l'induction, qui a un petit inconvénient à l'induction, c'est que toutes les casseroles ne
changer.
Vont pas sur l'induction.
Oui.
Donc, il faut faire un test avec un petit aimant. Si cet aimant adhère, c'est que c'est bon pour l'induction. Hein. Quelque chose bon qu'on fait souvent d'ailleurs, c'est couvrir la casserole quand mmh. elle chauffe. C'est quand même 4 fois moins d'énergie. Une casserole d'eau qui boue, qui arrive à bouillir, utilise 4 fois moins d'énergie
c'est
si elle
beaucoup.
Est couverte que à l'air libre.
Ouais.
Hein. Et puis, bien sûr, il faut adapter le contenant, la casserole, à la taille de la plaque de cuisson. Pas la peine de mettre une petite casserole
sur le grand, évidemment.
De cuisson, parce que là, c'est la perte d'énergie immédiate. Hein.
Alors, il y a aussi quelque chose d'assez énergivore dans une cuisine, c'est le four.
Oui, alors le four, bah, il est indispensable, bien sûr. Il faut préférer les fours à catalyse plutôt qu'à pyrolyse, parce que la pyrolyse, ça nettoie bien, mais ça consomme énormément d'énergie. En plus, quand c'est un four à chaleur tournante, il permet quand même la cuisson de plusieurs plats en même temps. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à utiliser le micro-ondes chaque fois que cela est possible.
Donc le micro-ondes, pas très énergivore, on doit comprendre ?
Ben, beaucoup moins que le four.
Oui, c'est vrai.
C'est pas très énergivore un micro-ondes.
Et puis alors, enfin, il y a le réfrigérateur, le congélateur aussi, qui peuvent consommer de l'énergie dans une cuisine.
Voilà, alors on déconseille hein, le modèle américain, qui prend beaucoup de place, mmh. qui est très cher et qui est énergivore.
Ouais.
C'est vrai qu'il fournit des glaçons, mais ça fait vraiment très cher du glaçon, on va dire. Hein.
Une époque, on savait faire les glaçons soi-même dans un congélateur classique. Hein,
voilà,
on a pas besoin,
voilà,
hein.
voilà. Il faut vérifier quand même la température. C'est bien,
ouais.
c'est bien. Des fois, maintenant, c'est intégré hein, au niveau du réfrigérateur,
oui.
Du congélateur. Sinon, on s'achète un petit thermomètre. Mmh. Il faut qu'il y ait à 400 degrés sur la partie réfrigérateur et à moins 18 sur le congélateur. Pas la peine de faire moins. Alors aussi éviter, ça c'est pas toujours possible, mais ne pas placer le réfrigérateur-congélateur près d'une source de chaleur, le plus loin du radiateur ou que le soleil ne tape pas dessus toute la journée par exemple, et puis d'ouvrir le moins possible, parce que quand on ouvre un réfrigérateur, l'air de la pièce s'engouffre et ça met longtemps à revenir à la température normale. Et puis, il faut penser à nettoyer la grille arrière qui, si elle est sale, va réduire la performance énergétique.
Très bien. Maintenant qu'on a parlé de l'électroménager, on va peut-être parler de tout ce qui est ordinateur et multimédia. Il y en a de plus en plus dans les maisons.
Oui, il y en a de plus en plus, mais ce sont des appareils quand même de moins en moins énergivores.
D'accord.
Il y a eu beaucoup de progrès depuis plusieurs années par rapport à rien qu'une une télévision d'aujourd'hui. Ça consomme beaucoup moins qu'une d'il y a 10 ans. Hein. Sauf obligation, il faut éviter de laisser brancher les appareils la nuit. Bon, je passe surtout la box de la Wi-Fi. même si de nos jours, la Wi-Fi sert bien souvent d'alarme, sert bien souvent...
Pour le chauffage, des fois, maintenant.
Voilà, avec des objets de plus en plus connectés, c'est vrai, c'est... si on peut éviter la Wi-Fi, on l'évite.
Okay.
Il ne faut pas penser à éteindre l'ordinateur et l'écran dès qu'il n'est pas utilisé pendant plusieurs heures, plutôt que de le mettre en veille, parce que la mise en veille, ça consomme.
Ça continue de tourner, en fait, oui.
Oui. Et puis, dans un foyer, on a constaté qu'il y avait de 10 à 50 appareils en veille en permanence.
C'est énorme.
C'est énorme aussi.
C'est énorme.
Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est de brancher tous ces appareils qui ont de la veille sur des multiprises avec un interrupteur. Comme ça, on va se coucher, ou on quitte la maison, on coupe les multiprises et c'est réglé. Et puis, on se trouve dans le commerce pour pas très cher, des wattmètres qui permettent de voir en gros ce qu'on consomme en veille.
Souvent, quand on parle d'énergie, on pense à la lumière aussi qu'on a chez soi. Il y avait d'ailleurs cette pub, on n'est pas à Versailles ici avec les personnes qui éteignaient les lumières. Oui. C'est quoi le poids de la consommation d'énergie dans la lumière? Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, quand même, l'éclairage, alors, il y a quelques années, quand on avait encore des lampes à incandescence, la lumière, oui, ça coûtait cher,
en
énergie. Maintenant, il y a quand même une très belle évolution, ce sont les lampes à LED, donc c'est à diode électroluminescente, qu'on trouve partout, qui ont une durée de vie énorme, on a des dizaines de milliers d'heures, avec un éclairage immédiat. Après, il y a encore des lampes qu'on appelle LFC, c'est-à-dire fluocompact, c'est celles qui mettent un certain
temps...
Celles
qui chauffaient.
Qui chauffent, avant de...
Celles qu'on appelait les lampes économiques d'énergie.
Ouais. Elles tendent à disparaître, mais elles demeurent, si vous en avez, elles demeurent intéressantes sur le plan de la consommation d'énergie, même elles sont moins chères que les LED.
À l'achat.
À l'achat, mais elle dure moins longtemps aussi.
L'un
dans l'autre, c'est quand même la LED quand même la plus intéressante. Et puis, c'est tout bête, privilégier la lumière chez soi, éviter les murs vert foncé, par exemple, qui vont donner un aspect sombre, et on va avoir tendance à allumer la lumière, et puis utiliser de l'éclairage direct plutôt que de l'éclairage indirect, c'est quand même beaucoup plus performant. Alors maintenant, bien sûr, on parle de lumens. Avant, on parlait de watts, une lampe, on a acheté une 60 watts, on a acheté une 100 watts, maintenant on parle de lumens. Alors, en gros, il faut diviser les lumens par 15 pour avoir l'équivalent en watts, c'est-à-dire une lampe de 1500 lumens, elle va faire à peu près 100 watts.
D'accord,
l'équivalent de 100 watts.
C'est bien de le savoir. Maintenant, il y a des boîtes qui le mettent sur certaines ampoules LED, on le voit ça maintenant, effectivement. On a parlé de plein de choses, mais on n'a pas encore parlé du chauffage et du chauffe-eau dans la maison.
Ah oui, et pourtant ça, c'est du chauffage électrique, et le chauffe-eau est souvent, le plus souvent électrique, c'est quand même important. Donc quand on parle de chauffage, d'ailleurs, il faut commencer par isoler. Si vous êtes dans une maison, il faut isoler, profiter des aides actuelles, même si c'est compliqué. On reconnaît que c'est compliqué.
Oui, il faut faire des démarches, il faut avoir un peu de temps.
Mais ça vaut peut-être le coup de passer un peu de temps là-dessus pour pouvoir isoler, en commençant souvent par le toit. 30% des perditions sont dues au toit. Les murs, ensuite, les murs extérieurs principalement, c'est quand même 20-25% de déperdition. Les fenêtres ne font que 15% de déperdition.
Ah,
souvent, on a tendance un peu à commencer par les fenêtres. Oui. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant, si elles sont déjà à double vitrage, bien entendu. Alors, le thermostat, personne ne doit avoir un chauffage électrique sans un thermostat qui est programmable, qu'on peut régler quand on part, qu'on peut baisser la nuit. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et penser à fermer tous les volets la nuit, même les volets du séjour, de la cuisine, il faut tout fermer. Et puis, ne pas hésiter aussi à utiliser des rideaux qui coupent quand même pas mal l'arrivée du froid.
Oui, c'est pas que esthétique, le rideau, là.
Oui. Alors, le réglage de la température, bien sûr, on conseille 19 degrés le jour. Alors, des fois, ça peut paraître peu, 19 degrés. En revanche, on s'habitue.
Oui, c'est vrai.
On constate, parce qu'avec l'augmentation des coûts, beaucoup ont diminué à 19 degrés. Et puis, on s'y fait. Et 16 degrés la nuit, en sachant que chaque degré supérieur, c'est 7% de plus d'électricité.
C'est pas rien.
Il faut penser à aérer aussi deux fois 10 minutes par jour. Quant au chauffe-eau, il faut le régler pour que l'eau chaude sorte à 55-60 degrés maximum et que sa capacité soit adaptée à la composition du foyer. Pas la peine de prendre 300 litres si vous êtes deux dans la maison. Hein. Et puis, en général, ça se fait, il fonctionne en heure creuse.
Bon, on regarde un peu les factures, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les vérifier? Faut de temps en temps se poser la question de savoir si le fournisseur est le bon? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Oui, on a déjà parlé ici même de la facture d'électricité. Simplement, il faut vraiment vérifier la puissance souscrite. Est-ce qu'on paye pour... pas la peine de payer 9 kW si on n'utilise qu'au maximum que 6, ça fait quand même des contrats moins chers. Est-ce que son contrat est adapté? Par exemple, les heures pleines, heures creuses, c'est intéressant si on a au moins un tiers d'heures creuses. Sinon, il faut prendre du basique. Ouais. Et puis, il faut suivre sa consommation. Et ne pas hésiter aussi à comparer les prix du co-wateur avec les comparateurs indépendants. Il y en a, le médiateur de l'énergie, un comparateur indépendant. Et puis, sur le site, c'est que choisir, donc quechoisir.org, il y a aussi un comparateur. Attention, il y a eu une émission il y a peu de temps sur France 2, sur Cash Investigation, sur les courtiers en énergie. Ah. C'est des gens qui démarchent pour vous vendre des contrats.
Comme on le fait dans les assurances, en fait.
Oui, comme on fait dans les assurances, et qui ont des commissions selon les fournisseurs. Donc ils ont tendance à plus vous imposer un fournisseur pour avoir le plus de commissions possible. Voilà ce qu'on peut dire, mais ne pas hésiter à changer de fournisseur. Ouais. On peut le faire quand on veut, ça ne coûte rien et il n'y a jamais de coupure.
Merci beaucoup Jacques. Si on veut retrouver l'ensemble de ces conseils où vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, vous pourrez la réécouter en intégralité sur le site internet www.rcn-radio.org. Et puis si on veut des conseils ou de l'aide, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir. Ça se passe comment ?
Nous avons des permanences à Nancy. Il faut prendre rendez-vous via notre site nancy.fcquechoisir.fr. On a aussi des permanences à Toul, Lunéville, Bar-le-Duc, Haucourt-Moulaine. Donc, on est partout.
On vous trouve partout. Merci beaucoup, Jacques. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous conso avec UFC Que Choisir.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.